Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 21. Une Heure en Série, l'émission, vous le savez, qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes confondues, et vous permet, face à un couvre-feu rallongé, de faire les meilleurs choix pour occuper vos désormais très très longues soirées hivernales. Ce soir, nous parlerons, tiens, ça faisait longtemps, pandémie fulgurante.
Ah ben voilà.
Pas de ma faute. Hein. Et prophétie apocalyptique avec The Stand sur Starzplay. Autisme et humour israélien avec On the Spectrum sur France TV. Et enfin, honneur du voleur ou comment faire un casse avec classe avec Lupin dans l'ombre d'Arsène sur Netflix.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Avec nous ce soir autour de la table, Ava Kahen de French Mania. Bonsoir, Ava.
Salut Xavier, salut tout le monde.
Isabelle Danel de bandapart.fr.
Bonsoir tout le monde.
Ainsi que Benoît Lagan, n'est-il besoin de le rappeler, le 5-7 de Mathilde Munoz le vendredi matin et Télé Matin. Alors
salut,
ils font la qualité.
Tous.
Non, je n'ai pas tendu la parole, donc c'est pas
je dis bonjour ou bonsoir.
J'allais dire que vous faisiez la qualité de cette émission, et je le pense vraiment, mais c'est les auditrices et les auditeurs qui en font le succès. Et les chiffres sont tombés cette semaine, et ils ont de quoi nous réjouir le cœur et nous rassurer sur le fait de venir le samedi soir en direct sous couvre-feu. Donc, mille merci à vous toutes et à vous tous d'assurer à cette émission ce succès et cette fidélité qui nous touche énormément et qui se témoigne à travers vos courriers. Alors, comme d'habitude, j'enlève mes lunettes. Voilà, c'est l'âge.
Oh là là, peau de vache là.
Je réponds même pas. Je ne réponds même pas. Alors, un message de Claude, je ne sais pas si c'est un Claude monsieur ou un Claude madame. Puis-je attirer votre attention sur une mini-série anglaise de 6 épisodes qui s'intitule Back to Life, écrite par Laura Solon et Daisy Haggard et qui est diffusée sur Netflix. C'est épatant. Je ne l'ai pas vu, quelqu'un l'a vu autour de cette table. Eh bien, vous ferez vos devoirs pour la semaine prochaine, voilà. Dans la série, bah, il continue le débat. Nous avons un message de Violaine à propos de Bridgerton. Jamais je n'aurais pensé réussir à m'immerger dans un univers aussi nunuche. Ça casse ce soir quand même. Réussissant malgré tout à me mettre dans la peau d'une petite fille d'une autre époque, j'ai suivi cette série pour son côté coloré à tous les niveaux. Le reste est creux, insipide, juste distrayant. Ça commençait bien et ça finissait mal.
Il y a un sens de la formule. Ouais.
Voilà, comme le supplice du pal. Bon, allez, nous allons voir si vous êtes en forme ce soir et vous êtes soit gentil, soit méchant. Et nous allons commencer avec le premier débat consacré à The Stand, une mini-série de 9 épisodes disponible sur Starzplay. Un virus incontrôlable créé par l'armée américaine a eu raison de la race humaine qui a été anéantie à plus de 99%. Là, c'est grave. Là, c'est sérieux. On ne plaisante plus. Hein. Quelques rares survivants à ce fléau ont réussi à se regrouper pour se protéger de l'extrême violence qui s'est emparée du reste du monde. Outre leur immunité, ils partagent d'étranges visions qui les ont menés à traverser le pays pour rejoindre Mère Abigail, sorte de prêtresse de plus de 100 ans qui pourrait détenir le secret de la survie de l'humanité. Mais face à eux se dresse un homme en noir, incarnation du mal, dont les pouvoirs destructeurs et les ambitions hégémoniques pourraient anéantir toute trace d'espoir.
J'ai peur.
Moi aussi.
On ira où ?
Bienvenue dans la zone libre de Boulder. Je m'appelle Stu Redman. Lequel de vous est Larry Underwood ?
Comment vous savez qui je suis ?
À votre avis ?
Mère Abigail.
J'arpente les chemins de la révélation. Je sais que tu sens sa présence.
Il se fait appeler l'homme noir. Le plus souvent, je ne vois que son loup.
Mère Abigail nous a dit qu'il y avait deux camps. Le bien et un gouffre sans fond d'où jaillissent les ténèbres.
Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Bouh.
Je pense qu'il y a quelque chose dans l'eau que je leur ai distribué avant le début de l'émission, mais c'est sévère en tout cas. Bon, vous avez vu le loup ?
On a vu le loup.
La question dans quelques instants. Allez, juste avant de vous donner la parole, paru tout d'abord en 1978 dans une version resserrée, puis rééditée 12 ans plus tard dans une version étoffée de plus de 800 pages. Faut un peu avoir le temps et rien à foutre. Disponible désormais en 2 tomes. au livre de poche en France. The Stand ou le Fléau en version française est un des romans les plus connus de Stephen King. Un roman qui prend une fois encore toute sa signification prophétique et stupéfait par son acuité sociétale en regard de l'actualité que nous traversons. Tous les thèmes de prédilection de l'écrivain se retrouvent dans cette nouvelle adaptation, je crois que ça a été adapté une première fois en 94, signée par Josh Boone, scénariste et réalisateur l'an passé du très médiocre Les Nouveaux Monstres Cinéma. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave. Au générique, outre la toujours formidable Whoopi Goldberg dans le rôle de Mère Abigail, on retrouve James Marsden, que l'on avait vu dans la saga X-Men, Amber Heard au générique de Justice League au cinéma, Greg Kinnear, qu'on adore tous, mais récemment on l'a vu dans House of Cards, et Alexander Skarsgård, qui dans True Blood ne cachait rien de la perfection de l'anatomie de son postérieur. C'était un peu la seule et unique raison pour laquelle nous regardions cette série. Benoît,
oui,
l'homme en noir qui a vu le loup.
Alors moi, la première question que je me suis posée quand j'ai regardé cette série, c'est a-t-on vraiment envie de suivre une série en ce moment sur une grippe mortelle? Et ma première réponse à cette question, bah, c'est non. La deuxième question, du coup, est-ce que la série est suffisamment intelligente dans sa façon de questionner ce que c'est que l'humanité face à un tel fléau? Eh bien, en partie oui, et surtout en partie non. En fait, en partie oui, pour la dimension psychologique des personnages. Moi, j'ai bien aimé au début comment ils installent. C'est-à-dire qu'on a toujours ce côté 5 jours avant, où on voit à chaque épisode un personnage en particulier, la vie qu'il avait avant, au moment où la grippe débarque, comment il se retrouve à être le survivant de cette grippe. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça confronte ce personnage à l'événement. Et je trouve qu'en ce moment, ça, c'est particulièrement intéressant quand c'est sur la psychologie. Sauf que très vite, et à chaque fin d'épisode, et plus ça avance et plus ça est présent, on nous explique que ça va être une énième fois l'histoire de Mère Abigail face au diable, l'homme en noir. Bon, mais très bien. Et alors là, je dis non, surtout pitié, ne me faites pas ça. Alors on voit les clans se composer au fur et à mesure des épisodes.
Oh, donc on les voit bien, oui.
Alors moi, j'ai vu que 4 épisodes. Hein, juste 4 épisodes, mais j'ai bien vu la structure.
On n'a pas vu plus, vous avez raison de préciser.
J'ai bien vu la structure, que plus on avance, moins la psychologie des personnages et leur vie intime est traitée, et plus on est dans cette lutte, et qui là, moi, me dépasse complètement. Et donc, est-ce que j'ai envie de voir la suite en cette période de pandémie? Pas certain.
Isabelle.
Oui, non, mais il y a plein de personnages qui passent à la trappe, et puis surtout, ben voilà, c'est les très, 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 très gentils qui se retirent dans un bled paumé où on n'a pas du tout envie d'aller,
non,
et les très, très, très méchants qui font la teuf à Las Vegas, et on n'a pas envie d'y aller non plus. Donc, c'est vrai que moi, ça me pose un gros, gros problème. Alors, c'est un roman, les fans de King trouvent que c'est vraiment un grand, grand roman. Moi, j'ai jamais réussi à aller au-delà des 70 premières pages de la première version, donc je suis très, très loin du compte. Néanmoins, c'est vrai que comme ce roman est très ancien, je veux dire, c'est vrai que King a été pillé et que la plupart des séries, des films qu'on a vus sont très inspirés de ces livres en général, mais de celui-là en particulier. Tous les films apocalyptiques, post-machin, post-truc, s'inspirent de ça.
Et il a toujours été très lucide sur la manière dont l'Amérique, effectivement, pourrait se replier sur ses valeurs et les pires en particulier,
voilà,
pour survivre, entre guillemets. Donc, il y a quand même quelque chose chez lui qui est intéressant.
Mais ça, c'est intéressant. Mais à la limite, la série de 94 était plus intéressante. D'abord, elle était plus courte, elle faisait 4 épisodes. Elle était, bon, point de vue de la mise en scène, elle n'a pas passé la rampe, mais elle était plus intéressante parce que ça allait un peu plus vite et que finalement, ce que ça avait à dire, ça le disait comme ça. Là, ça délaye énormément et pour pas dire grand-chose, et avec, alors moi, je te trouve bien gentil, Benoît, parce que je trouve que les personnages, ils existent très très peu par rapport au roman, pour le coup. Dans le roman, vraiment, on sait d'où ils viennent, on sait ce qui leur est arrivé, on a vraiment une vision de l'Amérique, et puis ils viennent des 4 coins de l'Amérique, donc il y a le Maine, il y a des tas de coins comme ça, donc on a vraiment des personnalités des êtres, puisque faut rappeler quand même que ça parle que de l'Amérique, hein, donc il n'y a pas un Français, pas un Anglais, c'est que l'Amérique qui est en danger, et l'Amérique est le monde, hein, donc ça aussi c'est un souci. Donc voilà, donc moi ça m'intéresse pas beaucoup. J'espérais effectivement y voir quelque chose qui pouvait nous aider, nous intéresser dans cette période a fortiori, et pour l'instant je ne l'ai pas trouvé. Moi je suis à 5 épisodes, je ne l'ai pas trouvé.
Ava Cahen.
Ben, je suis partagée, mais je rejoindrai plutôt l'avis de Benoît, parce que je trouve que c'est plutôt pas mal, moi, ce portrait de cette Amérique, de ses démons et de comment ils se déchaînent. Je trouve que ça tombe à pic. C'est pas une série qui donne la patate, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'expérience, elle est très intéressante, parce qu'évidemment, voilà, vous l'avez dit, on ne peut pas s'empêcher de connecter ce qu'on regarde à ce qu'on vit, même si dans la série, évidemment, le curseur de la dystopie est poussé à son comble. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que on apprend à connaître les personnages, on les appréhende par leur environnement, par leur vie d'avant, par leurs rêves, par leurs visions, et on comprend ainsi ce qui les lie ou ce qui les oppose. Le premier épisode pose le contexte et les enjeux. Il est assez anxiogène. On entend des gens qui toussent jusqu'à l'étouffement. On en voit d'autres vomir à cause de l'odeur des cadavres qui pourrissent dans les rues. Voilà, bon appétit bien sûr, mais ça met en condition. Au début du premier épisode, enfin en tout cas ça fait partie du cauchemar dans lequel on est plongé. Au début du premier épisode, on voit une bande de mecs masqués entrer dans une maison abandonnée, et l'un des personnages va dans une pièce où il trouve plein de DVD et plein de Blu-ray, et il explique au personnage d'Harold que par les temps qui courent, et se divertir, ce n'est pas un luxe. Il embarque dans son sac à dos quoi ? Risky business, en ajoutant c'est un super film. Et c'est peut-être une scène qui vous paraît anecdotique, mais en fait elle dit des choses, je trouve, de l'état d'esprit des personnages qui ne vivent plus rien d'agréable, et ça rappelle que le cinéma est une valeur refuge. Le casting est top,
un art essentiel, nous sommes d'accord.
Le casting est top, alors vous avez cité de merveilleux acteurs. On a le plaisir de croiser J.K. Simmons dans le premier épisode, Odessa Young qu'on avait aperçu brièvement,
trop brièvement toujours,
mais bon, on verra par la suite peut-être, Odessa Young qu'on avait aperçu dans Assassination Nation, et puis Alexander Skarsgård qui a évidemment littéralement la beauté du diable. Donc bon, écoutez,
trop gentil. The Stand, mini-série de 9 épisodes, disponible donc sur Starzplay. The Divine Chord par The Avalanches, extrait du nouvel album de ce groupe australien, titre pour lequel ils se sont entourés du talent des Américains MGMT et du Britannique Johnny Marr, que les fans dont je fais partie associent depuis toujours au meilleur groupe de pop anglaise jamais existant, les Smiths. Ah. D'accord. Pas vous confirmer l'année prochaine.
C'est
extrait d'un collectif de chansons aériennes, éthérées et solaires, lieu de rencontre du groupe avec d'autres artistes comme Leon Bridges ou Néné Cherry, une superbe synergie de talents.
France Inter. Une heure en série.
Là, il y a un débat, les Smiths, Beatles, les Smiths, bien sûr. Enfin bon, bref.
Et les Kinks, alors?
Oh mon Dieu, vous me faites honte. Allez, conseil littéraire. L'Atlas des monstres connus et méconnus par Sergio Aquindo aux éditions du Chêne, en écho à The Stand, énième adaptation de l'univers inquiet et inquiétant de Stephen King. J'ai choisi de vous recommander ce soir ce très beau livre, presque un grimoire, rappelez-vous, comme ceux dans lesquels Buffy effectuait ses recherches pour savoir comment combattre les abominables créatures qui attaquaient Sunnydale. Eh bien, dans cet Atlas, Sergio Aquindo recense toutes sortes de monstres issus de l'imaginaire collectif, des légendes ancestrales, ainsi même que de la littérature ou de la peinture, et avec pour organiser cette galerie que ne renierait pas Tim Burton, un classement géographique où il range les ghouls et autres bêtes sanguinaires pays par pays, reprenant ainsi une idée chère à Stephen King qui veut que chaque contrée fomente en son sein ses propres démons, des chimères qui ne seraient rien d'autre qu'une extension de sa culture, de son histoire, de ses peurs et de ses phobies. Résultat, une balade érudite et illustrée par l'auteur lui-même dans les méandres fascinants des réprouvés, du mal et de ses cathartiques incarnations animales. Des monstres des Jérôme Bosch au Kéou venus de Chine en passant par l'histoire véridique de Jack le Pygmée à Chicago ou encore l'anthropophage Kémosite du Kenya, Aquindo orchestre ce ballet maudit avec un hypnotique talent de conteur et d'illustrateur. Vous allez trembler à la fois de peur et de plaisir en parcourant les pages ténébreuses de ce superbe atlas des monstres connus méconnu, Paris, aux éditions du Chêne. Deuxième débat de la soirée, On the Spectrum, une série israélienne de 10 épisodes disponible sur le site francetv.fr. Zohar, Ron et Amit vivent ensemble, trois colocataires d'environ 20 ans qui ont en commun d'être atteints d'un syndrome autistique. Zohar travaille dans un bar et rêve de façon un peu compulsive d'avoir un petit copain afin de connaître enfin, comme ses amis et ses collègues, les plaisirs de l'acte charnel. Amit passe son temps à squatter le café du coin de la rue et d'en dévaliser la réserve en croissant, tout en dévorant des yeux la jolie serveuse. Et enfin, Ron, accro au petit écran, voudrait bien trouver un travail, mais de préférence un travail qu'il pourrait exercer sans avoir à quitter son appartement. Bon, l'actualité lui donne raison.
Je m'appelle Ron, j'ai 33 ans, je vis à Ramat Gan, mais je viens de San Francisco. J'y étais avec ma famille et ensuite j'ai déménagé en Israël pour venir vivre avec ma grand-mère. Elle est morte, elle avait une cataracte.
Ron, une seconde, il faut que tu t'arrêtes. Lors d'un entretien, il faut parler de ses compétences et de ses qualités. Ron Schulman, n'en fais pas, tout ira bien.
Ne me touche pas. Je m'appelle Ron, j'ai 33 ans, je vis à Ramat Gan, j'ai un diplôme en informatique, je suis expert en codage et en cybersécurité, et je suis plus rapide que la moyenne. J'aime pas qu'on m'impose de faire des choses ou qu'on me pose des questions en général.
Je reviens dans une heure, pas de bêtises, compris.
Arrête, c'est n'importe quoi,
t'as touché. Pourquoi tu me cries dessus?
Parce que tu ne dois jamais laisser quelqu'un te toucher.
Mais moi j'ai trop envie que quelqu'un me touche.
Zohar, on en a déjà parlé, tu te souviens?
Tu es mon professeur.
Exact.
Pourquoi est-ce que tu pourrais pas être mon petit copain aussi?
On a dit que c'était pas possible.
Grand prix de Série Mania en 2018 et série ô combien casse-gueule, je crois qu'on l'aura compris à l'énoncé de ce résumé, On the Spectrum est une série écrite par Dana Idizis, scénariste dont le frère est autiste. Elle a d'ailleurs déclaré dans les colonnes de Télérama avoir voulu, je la cite, porter un regard différent sur l'autisme, non pas adopter le point de vue de la famille ou des proches, mais adopter celui des personnes autistes traitées comme on traiterait n'importe quel autre personnage. Fin de citation. La série est mise en scène par Yuval Schafferman. Elle est interprété par des comédiens professionnels, c'est important de le dire, dont Nive Maillard, qui est un acteur de stand-up très connu en Israël, Naomi Levoff et Ben Yossipovitch. Isabelle Danel a écrit un très beau papier sur bandapart.fr consacré à On the Spectrum, donc je me permets de lui tendre le micro en premier. Isabelle.
Bah oui, moi j'aime énormément cette série. Et comme l'a dit la scénariste, elle porte un regard différent sur la différence. Et c'est à la fois tendre et âpre. C'est non romantique, c'est sans concession. Et forcément, ce regard-là, il change le nôtre. Et moi, j'ai vraiment été extrêmement bouleversée par ces personnages qui sont donc des neuros atypiques, c'est-à-dire que leur cerveau fonctionne différemment. Et comme le dit le frère de Zohar, qui s'appelle Asher, c'est soit un retard mental, soit un handicap social, soit un déficit intellectuel, ça dépend du point de vue. Et justement, c'est ça.
C'est très juste.
C'est la série nous fait changer de point de vue, change notre regard, nous fait changer de point de vue en nous plaçant face à eux. Et c'est très frontal, on est avec eux, des fois c'est drôle,
c'est souvent
mais on
très
rit
drôle.
Pas contre eux.
Absolument.
Souvent, c'est très, très bouleversant. Il y a des moments, principalement le personnage de Zohar est un personnage extrêmement bouleversant, cette jeune femme qui veut absolument découvrir l'amour et qui du coup se met dans des, on l'a entendu dans la bande-annonce, se met dans des situations un peu dangereuses. Le personnage de Ron rencontre un autre personnage qui donc n'est pas du spectre autistique, qui est sa voisine du dessus et qui est, comme lui, vissé à son canapé, mais pour des raisons complètement différentes. Et ce personnage-là est vraiment pour moi une force incroyable dans cette série. Bref, sans trop dévoiler, parce que c'est ce qui est beau aussi, c'est de rentrer et d'avoir son regard qui se balade sur ces personnages, donc je voudrais pas trop en dire, mais c'est vraiment une série qui embrasse cette condition humaine d'une façon généreuse comme j'ai rarement vu, quoi. Donc ça me plaît énormément. Et en plus, c'est filmé en scope. Alors c'est très étonnant parce qu'il y a toujours un grand vide autour d'eux. Ouais. Dès qu'il n'y en a qu'un, il y a un immense vide autour d'eux parce que c'est filmé en scope. Dès qu'ils sont trois, ça remplit l'espace parce que toute cette humanité-là qui ressemble à la nôtre, hein, ça grince, ça coince, ça dérape. Mais en même temps, dans leur relation à autrui, c'est compliqué. Mais pour nous aussi, c'est très compliqué la plupart du temps dans les relations à autrui. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnages, donc des neurotypiques, qui, eux, ont aussi des problèmes de couple, des problèmes d'organisation, des problèmes de tas de choses. Et donc, voilà, c'est une très, très grande série pour moi et je ne comprends pas pourquoi ça a mis autant de temps, mais en tout cas, ça fait 2 ans qu'elle existe. Elle est actuellement sur France TV et c'est gratuit, donc allez-y, courez-y.
Absolument, excellente recommandation. Benoît.
Oui, effectivement, je trouve que par rapport à la mise en scène, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est mis en scène comme si on était dans leur tête. Mmh. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que...
C'est à la fois organisé et désorganisé, voilà, c'est très juste.
Voilà, donc avec ces moments où il y a par exemple ce très beau passage où on voit le personnage de Ron qui est couché sur le canapé et qui regarde sa voisine à travers la table basse. C'est merveilleux comment c'est mis en scène à ce moment-là et je trouve que ça dit tout. Alors effectivement, pour moi, c'est la meilleure série de la semaine, indéniablement. C'est gratuit, comme tu le disais, Isabelle, et à l'heure où on pense que Netflix est synonyme de série, c'est bien de dire que c'est sur France.tv gratuitement qu'il y a de très belles séries.
Qu'il y a une offre remarquable, nous sommes d'accord.
Effectivement, Grand Prix à Série Mania mérité en 2018 parce que c'est... Alors, ça pourrait être vendu comme de la comédie. Alors, on dit dramédie en général. Comme ça, on a tout le monde.
On couvre un large spectre.
Mais c'est effectivement ça, c'est-à-dire que on est bouleversé et on rit beaucoup. Et puis surtout, ça pointe du doigt aussi le fait qu'on est tous en fait différents. Mmh. Et effectivement, je trouve que les personnages des accompagnants sont très bien écrits également. C'est-à-dire qu'on voit que ils sont dans leur vie censés représenter un petit peu le garant de ce qu'il faut être ou de ce qu'il aux yeux
d'une certaine norme.
D'une certaine norme.
Dire,
et en fait, ils sont anormaux aussi. Et je trouve que tous les personnages sont bien écrits. Donc c'est vraiment extrêmement bien documenté et ça n'oublie jamais d'être au fond très romanesque aussi.
Oui.
Et par pitié, regardez-la en VO.
Oui.
Parce que vraiment, ça apporte une intensité, une étoffe supplémentaire au personnage. Ava Kahn, vous joignez nous?
Ah bah, tout à fait.
Vous joignez-vous à notre concert de louanges? Je voulais raccourcir un peu.
Voilà, non, c'est vraiment très réussi. Alors, pour rien vous cacher, j'ai eu un petit temps d'adaptation et je crois qu'il est nécessaire aussi de le dire. Hein. On entre à petits pas aussi dans cette série et je me suis attachée vraiment épisode après épisode à ces personnages qui ne sont absolument pas des caricatures, qui ne sont absolument pas des épouvantails, qui sont faits de chair et d'os et qu'on découvre, qui nous émeuvent, qui nous surprennent. Donc voilà, chacun essaye de s'adapter, de lutter aussi contre cette sa pathologie. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est ce que tu disais effectivement, Benoît, c'est leur grille de lecture du monde qui nous est soudain rendue accessible. Et la série, bien sûr, bouscule plein d'idées reçues. Donc on est entre drame et la comédie, vous l'avez dit. Un pied dans la colocation de nos héros, un pied dehors où tout est chaotique. C'est une série qui est à la fois tendre et lunaire, remarquablement écrite, parce qu'il faut tenir le rythme. Hein. Il faut tenir ce fil d'écriture, les situations, les dialogues, les personnages, tout est précis, tout est intelligent.
Les quiproquos, les rebondissements, parce que c'est une vraie série aussi.
Et les répétitions, absolument, puisque ce sont des obsessionnels, donc il y a des scènes qui reviennent,
et des
à chaque fois,
et
voilà, absolument. Et c'est très très bien écrit.
Et c'est pas une série spectaculaire, c'est pas non plus un mélo larmoyant, mais dans ce registre et sur ce thème, que le cinéma et la série traitent peu, et ben je trouve que c'est vraiment remarquable. On avait parlé de Mental l'année dernière, série qui était diffusée sur France TV Slash, qui nous avait emballé, hein, mais qui parlait des troubles mentaux, bien sûr, mais l'action se déroulait dans un institut pour adolescents instables. Là, le cadre est très différent, donc c'est bien de le rappeler. C'est moins naturel, c'est plus naturaliste, c'est moins pop, mais on est toujours pris dans le quotidien de ces personnages. Non, vraiment, c'est bouleversant. Il y a du malaise, du quiproquo, de la douceur. Ça dit des choses très complexes de notre époque, des relations et des interactions sociales, comme vous l'avez dit aussi.
Il y a énormément de talents comme vous. On the Spectrum, série israélienne de 10 épisodes, disponible sur le site francetv.fr, entièrement gratuitement.
Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout.
De Julien Doré, nouvel extrait de son nouvel album Aimé au féminin, sorti début septembre, où Julien Doré et sa célèbre chevelure gaufrée continuent de creuser le sillon d'une musique faussement simpliste et de paroles faussement légère et, comme toujours chez Julien Doré, un clip complètement décalé hein, accompagne la sortie de ce nouveau titre. Un clip où Julien Doré joue au badminton et cuisine des crêpes avec ses deux nouveaux meilleurs copains.
Des dinos.
Des diplodocus. Voilà. Je n'aimerais pas être dans la tête de ce garçon.
France Inter. Une heure en série.
Je sens qu'on a une fan de Julien Doré ici en plateau. C'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte. Et pour cet effet miroir, 10 jours après l'assaut du Capitole et 5 jours avant le prochain, c'est-à-dire le jour de l'investiture de Joe Biden, vous avez revu Designated Survivor. J'avais interdit les titres anglais, je me ridiculise à chaque fois.
Non, mais ça va, vous faites bien. Effectivement, Xavier, Designated Survivor, une série qui est arrivée sur le petit écran américain le 21 septembre 2016 sur ABC et chez nous sur Netflix. À l'époque, tout le monde pensait encore qu'Hillary Clinton serait élue et que Donald Trump se prendrait un râteau. Du coup, suivre l'histoire de ce secrétaire d'État que rien ne prédestinait à être président dans une Amérique en pleine crise politique, comment dire, c'était amusant. D'autant plus qu'il y avait quelque chose de séduisant à suivre ce secrétaire d'État au logement interprété par Kiefer Sutherland, un comédien voilà, qui reste dans les mémoires comme l'homme qui a sauvé plusieurs fois l'Amérique et en particulier ses présidents d'horribles attaques terroristes en 24 heures chrono. Je vous renvoie d'ailleurs au plateau de télé de Marc Jolaine de la semaine dernière. Alors enfin, en tant que Français, il y avait aussi un effet miroir intéressant à suivre un homme politique dont on disait qu'il n'était ni de droite ni de gauche, ou plutôt à la fois de droite et de gauche, enfin républicain et démocrate, un bon indépendant libéral, quoi, un macroniste. Mais voilà, 4 ans plus tard, revoir cette série fait froid dans le dos. Il faut dire que le point de départ est le suivant. Tom Kirkman est un petit secrétaire d'État sans étiquette. Du coup, son absence volontaire lors du discours sur l'État de l'Union, qui a lieu au Capitole, n'est pas un problème. En effet, toute l'élite politique américaine est réunie là, sauf lui. Logique, il a été désigné pour survivre au cas où une attaque extraterrestre pulvérise le Capitole, ou que des suprémacistes blancs surarmés, peau de bête en option, désinguent tout le monde. Bref, improbable. Bien évidemment, vous vous doutez bien que si le secrétaire d'État en question est interprété par Kiefer Sutherland, c'est qu'il doit y avoir un problème. Et ce jour-là, ce n'est pas un assaut de Trumpistes surexcités qui a lieu au Capitole, mais une bonne vieille attaque à la bombe, comme Hollywood sait les imaginer. Et quand Tom Kirkman, protégé, regarde paisiblement le discours à la télé, au Capitole, c'est le drame.
Perpétuer le rêve américain, hérité de nos pères, de nos mères.
Qu'est-ce qui se passe ? Oui, non, on n'a plus d'image non plus.
Coupez votre portable, monsieur le secrétaire d'État.
Dites-moi ce qui se passe, Mike.
Coupez votre portable.
S'il vous plaît, Mike. Dites-nous ce que vous savez.
Le Capitole a subi une attaque. Le Congrès. Le cabinet. Eagle est mort. Monsieur, vous êtes désormais le président des États-Unis.
Alors, la série tient bien la route et puis c'est rigolo parce qu'on demande à Tom Kirkman d'éteindre son téléphone. Et avec le recul, revoir la série aujourd'hui, après l'assaut du Capitole, et en fait, c'est une série pleine de renseignements.
Car selon vous, donc, si j'ai bien compris, Designated Survivor serait bien plus qu'un thriller politique. La série questionnerait surtout les forces et les fragilités de la démocratie américaine.
Oui, exactement, car si la série démarre comme une série d'action vitaminée, très vite, les créateurs montrent à quel point l'union des États d'Amérique est fragile. L'arrivée de Kirkman à la Maison-Blanche n'est pas le résultat d'une élection. Il est juste là pour faire la transition après un attentat. Sa légitimité est donc tout de suite mise à mal. D'ailleurs, dès les premiers épisodes, le gouverneur réactionnaire du Michigan ne reconnaît pas la présidence Kirkman et il profite de la crise. Opposé à la politique du président désigné, il a deux doigts de faire sécession. Il met d'ailleurs en place un état policier, ciblant en particulier les populations musulmanes, car seul l'islam peut, selon lui, s'attaquer aux valeurs de la démocratie américaine et le Capitole en particulier. Plus mesuré, Kirkman, oui, à la Maison-Blanche, ne veut pas réagir trop vite. L'ennemi pourrait venir de l'intérieur, selon lui. La série, qui au départ se voulait un plaisant thriller politique, bascule en fait au fil des épisodes, impactée sans doute par l'élection de Trump lui-même et ses prises de parole radicales. Kirkman devenant au fond pendant 3 ans, sur le petit écran et la fiction, un président idéal face à l'Amérique réactionnaire incarnée par Trump dans la réalité.
Merci beaucoup. Et pour les curieux qui le souhaitent, notez que les 3 saisons de Designated Survivor, j'en ai marre des titres anglais, sont disponibles sur Netflix. Vous êtes bien dans une heure en série sur France Inter en direct en ce samedi soir avec Ava Cahen, Isabelle Danel et Benoît Lagan. C'est l'heure du 3e et dernier débat de cette émission, Lupin dans l'ombre d'Arsène sur Netflix. Alors, première partie de cette série dont seulement 5 épisodes sont disponibles à ce jour sur la plateforme. La suite viendra dans quelques temps. Comment revisiter les romans de Maurice Leblanc et faire oublier l'interprétation fringante de Georges Descrières dans la série des années 70? Eh bien, en actualisant le propos et sur surtout en réinventant le personnage principal. C'est l'option choisie par les auteurs, nous sommes donc en 2020, et Hassan Diop est un cambrioleur qui agit avec classe, sans violence, ni verser la moindre goutte de sang. Mais ses traits audacieux cassent n'ont pas grand-chose à voir avec une soif inextinguible de s'enrichir. Pour les comprendre, il faut remonter dans son enfance, ce que de nombreux flashbacks, peut-être un peu trop nombreux, vont se charger de faire, traumatisé lorsqu'il n'avait que 10 ans par l'arrestation de son père, chauffeur de maître accusé par son ignoble patron d'avoir dérobé un collier précieux. Hassan n'a de cesse depuis de chercher à venger l'honneur de ce père injustement condamné. Lecteur assidu des aventures d'Arsène Lupin, il va emprunter à son mentor littéraire certaines de ses méthodes pour démasquer le véritable coupable du vol de collier. Surtout que de l'épouse empathique de l'abject patron jusqu'au flic chargé à l'époque de mener l'enquête, les suspects ne manquent pas.
Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un collier aux enchères. On va le voler.
Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions ?
Oui.
Et pendant que nous, on risque notre peau, toi, tu fais quoi ?
Moi ? Moi, j'achète le collier.
Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça.
Arsène Lupin, gentleman cambrioleur.
Viens, faut que je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent.
Ça va être quoi, après D'Artagnan, les trois petits cochons ?
Non, aidez-moi un tout petit peu, là, s'il vous plaît. Une série coproduite par Gaumont et créée par le Britannique George Kay, auteur sur Killing Eve et sur la série Criminal, ainsi que par le Français François Usan, qui avait travaillé entre autres sur France-Québec et le film Hibou. Derrière la caméra, on retrouve entre autres Louis Leterrier et Hugo Gélin. Le casting étincelle comme les pierres précieuses que convoite Lupin, puisqu'on retrouve Omar Sy dans le rôle principal et à ses côtés, il est toujours impeccable. Clotilde M, Ludivine Sagnier, Shirin Boutella, Nicole Garcia, ainsi que l'excellent Soufiane Guérab. Mais tant de talents conjugués suffisent-ils à faire briller la série au firmament de la production télévisuelle ? À vous de me le dire, certains de vos petits camarades se sont prononcés, pas avec beaucoup de bienveillance. Pour Téléops, Lupin fait plus que décevoir avec son écriture bouchonnée et ses clichés en série pour le Figaro TV. Si l'action et les tours de passe-passe sont au rendez-vous, le panache en est absent. C'est un énorme carton en France et à l'international. Ça vaut d'ailleurs à la série d'avoir les honneurs de la une et du dossier d'ouverture de Libération de ce week-end, qui revient donc à la fois sur la série. Lupin a conquis les abonnés américains de Netflix en mélangeant à Paris idéal une vedette familière outre-Atlantique et une intrigue simplifiée, je vais vous demander de vous prononcer, mais ils évoquent aussi le succès de Netflix en temps évidemment de confinement et le fait que la série a relancé les ventes des romans de Maurice Leblanc. Si au moins il y a cet avantage-là, pourquoi pas ? Ah bah justement, j'allais vous confier le soin de nous dire ce que vous aviez pensé en premier de Lupin dans l'ombre d'Arsène.
Eh ben, faut prendre la série pour ce qu'elle est, un divertissement, un blockbuster découpé en plusieurs épisodes sous influence du cinéma d'action des années 90-2000. Faut pas être trop regardant vis-à-vis du scénario, du montage et de l'emploi des flashbacks. Xavier, vous l'avez dit, c'est très paresseux et moderne, et pas très moderne tout ça. Mais c'est pas non plus un supplice à regarder. Hein. Voilà, Omar Sy fait le job, c'est lui et sa bonhomie qui font le charme de la série. Le costume du néo-gentleman cambrioleur, je trouve qu'il lui va bien. Les scènes d'action sont calibrées, Leterrier réalise plusieurs épisodes et on sent bien la patte de l'école Besson derrière tout ça. À la réalisation, on retrouve aussi Marcela Saïd, réalisatrice de Los Perros, film qui était passé par la semaine de la critique, et on peut dire que c'est un transfert plutôt surprenant. Pour contrebalancer l'action, vous l'avez dit, il y a tout un versant sentimental à l'histoire qui concerne Hassan et son père dont il veut venger donc la mémoire salie par des accusations de vol. Ce que je trouve intéressant, si je dois donner un bon point à cette série, c'est que cette littérature, Lupin, Maurice Blanc, mais aussi Dumas, hein, parce qu'on pense on pense aussi au Comte du Monte Cristo avec la machination dont le héros est potentiellement victime.
Les grands écrivains feuilletonnants,
voilà,
on va dire.
Voilà, exactement. Et Hassan et Youssef, l'un des flics dont on comprend qu'ils sont donc des fils d'immigrés, ils la connaissent par cœur, ils la font leur, et c'est une manière de renverser du cliché. Et d'ailleurs, ce sont les seuls à percevoir les messages codés à travers ces grands textes, alors que les personnages blancs autour d'eux ne captent rien aux références et aux énigmes.
Voilà,
ils les mettent complètement à l'amende à ce ce niveau-là. Donc je trouve ça intéressant qu'une série comme ça d'aventure intègre ces enjeux sociaux aussi. Après, il y a d'autres aspects qui plaisent moins, comme le fait que les femmes servent de faire valoir aux hommes, que c'est
porte voilà, collier, on va dire.
Voilà, c'est exactement. Ouais, voilà, c'est pas une série non plus dans laquelle il faut chercher une leçon d'acteur studio, je trouve. C'est un petit peu embarrassant. Ça manque de finesse et d'élégance. À l'image des dialogues, on a entendu un petit extrait. Mais bon, faut saluer le pari. La preuve, c'est que ça cartonne.
Isabelle a commencé à vouloir émettre un avis contradictoire. Je suis pas d'accord. Alors,
je voulais arrêter avant. Non, je suis pas d'accord sur plein de choses parce que je trouve que effectivement, il faut prendre la série pour ce qu'elle est. Mais je trouve ça très réussi dans le genre. Je suis d'accord. Il y a des trous, il y a des petits problèmes de mise en scène, il y a des problèmes de montage, etc. Mais même les flashbacks, moi, je trouve ça plutôt réussi parce que c'est vrai que ça plombe un peu, mais que en même temps, ce qui est joli, c'est que c'est vraiment une série sur la transmission. Ça passe du père d'Hassan à Hassan et de Hassan à Raoul, son fils. Et ça, pour comprendre ça, il faut vraiment avoir la genèse et il faut vraiment avoir la jeunesse de Hassan. Et donc, tout ce qui le fabrique et tout ce qui fait aussi qu'on aura beaucoup plus d'épisodes que la fin de la première saison, à mon avis, il vise loin et il vise long. Donc, le fait d'avoir tout ce qui va se créer autour de lui pour ensuite pouvoir avoir le personnage d'Hassan, Arsène, tel qu'il existe dans les romans de Maurice Leblanc, je trouve que c'est assez bien installé. Sur les 5 épisodes qu'on a là, comme c'est ramassé, c'est peut-être un petit peu indigeste par moment. Je suis pas d'accord sur les femmes faire valoir parce que je trouve que Ludivine Sagné est formidable. Elle est très bien. Elle lui tient tête.
Elle est l'épouse d'Hassan. Elle est précisée pour les auditeurs.
La mère de son enfant.
Oui, ouais. Son épouse, elle lui tient tête. Elle n'est pas dupe et en même temps, elle est très charmée. Ça fonctionne très, très bien.
C'est très
joli. Si, elle est là tout le temps. C'est très, très joli. Il y a plein de très jolies idées de détails dans des scènes, de regards de sa part, etc. Non, moi, franchement, je trouve que ça fait le job vraiment. Et je boude pas mon plaisir du tout.
Et le jouer à la gagne. Ouais. Attendez pas que je vous donne la parole, non mais allez-y. Non,
mais j'ajouterai et le personnage de Clotilde M qui je pense va prendre en force au fur et à mesure de la série.
On le souhaite
parce que il y a des choses qui sont mises en place là. Alors moi je suis plutôt emballé en réalité par Lupin effectivement parce que on retrouve le plaisir du bon feuilleton d'antan.
Mais oui.
Les feuilletonistes effectivement, faut pas oublier quand même que Arsène Lupin dès le départ a été découvert par le public grâce au feuilleton dans la presse, donc en épisode. Donc finalement, que ça arrive aujourd'hui sur Netflix, c'est déjà une première bonne idée. C'est vraiment la série qui pourrait être tout à fait sur TF1, M6 ou France 2, par exemple, et ça cartonnerait, et à raison. Alors, moi, sur le carton sur Netflix, j'aimerais que déjà Netflix nous donne de chiffres corrects. Hein. S'ils comptabilisent les personnes qui ont regardé 2 minutes comme un téléspectateur potentiel de Lupin, bon voilà, pour les chiffres, je préfère avoir des chiffres exacts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il suffit d'écouter dans la rue.
Sharon Stone, elle a fait une déclaration d'amour à Omar Sy. Pardon, elle n'a pas regardé que 2 minutes. Hein.
Non, mais il suffit d'entendre, malgré tout, ne serait-ce qu'en France, tous les gens qui ont regardé et qui sont plongés dans la série Lupin. Donc moi, j'aime beaucoup. Je trouve que tout par les points positifs d'Ava et d'Isabelle, je prends. Je rajouterai, moi, peut-être la seule chose qui m'a un petit peu gêné, au fond, à partir du 3e et 4e épisode, c'est que moi, j'espérais avoir un vrai formule à chaud, c'est-à-dire ces séries formules où à chaque épisode, un casse, une aventure. Et que on ait un peu le plaisir, vraiment, du feuilleton à l'ancienne, vraiment, avec chaque épisode. Et or, on est quand même beaucoup sur ce qu'on appelle la mythologie, c'est-à-dire vraiment toute cette enquête. Voilà, c'est juste ça. J'espère que dans la suite, ça va changer et qu'on va retrouver le plaisir du Lupin.
Allez, haut les mains, peau de Lupin. Je sais, même non. Moi j'ai honte, non. Mais comme je l'avais préparé, je me suis dit je vais la garder. Moi, il y a un truc quand même qui m'énerve énormément dans cette série et qui nous font croire que le train Paris-Le Havre part à l'heure.
C'est
faux. Et ça n'arrive absolument jamais.
Et qu'entre Le Havre et Etretat, il suffit de 3 secondes 12 pour arriver.
Nous sommes d'accord. Alors, vous rassurez, il y a 5 épisodes, il y a un vrai cliffhanger, vous savez, ce rebondissement, ce coup de théâtre qui conclut un dernier épisode. On ne vous racontera rien. Mais, alors je sais que le principe du plaisir coupable échappe complètement à Benoît, mais moi j'aurais tendance aussi à me ranger de votre côté, lucide sur tout ce qui manque, mais en même temps, pas désagréable.
Non, puis Omar Sy est formidable, vraiment, il est très bien.
Mais c'est un très bon comédien,
c'est
quand il veut bien.
C'est un super comédien, Lupin, et là, il est joyeux, il est chouette, quoi.
Je bouge les lèvres, donc ça signifie que je suis en train de reprendre la parole, merci Isabelle Gamel. Lupin, dans l'ombre d'Arsène, sur Netflix.
On voit rien avec votre masque.
c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure.
Vous avez peut-être entendu la douce voix de Benoît Lagan, j'en suis désolé. Vraiment, je n'ai rien pu faire pour l'empêcher.
Je chante bien, le
cambrioleur. Très, très, très bien. On nous avait tous reconnu Gentleman Cambrioleur par l'inimitable Jacques Dutronc. La voix Dutronc colle parfaitement à l'élégant chaloupé et la séduction perfide d'Arsène Lupin. Ça, ça vous va bien, en revanche.
Oui, c'est ça.
Le célèbre Cambrioleur, sorti en 1973. Cette chanson accompagnera les deux saisons de la série culte. Série, soyons honnêtes, à rien démodé, mais toujours aussi délicieusement vintage. On a juste oublié de citer une comédienne à propos de Lupin dans L'Ombre d'Arsène. Isabelle, je vous laisse le faire parce qu'elle est géniale.
Oui, on a oublié Anne Benoît, qui a un personnage de journaliste pur et dur, qui ne révèle pas ses sources et qui est absolument exceptionnel et qu'on retrouvera dans quelques semaines, je ne sais pas quand vous faites le débat, dans Paris Police 1900. Et franchement, c'est une géniale comédienne de cinéma et dans les séries, elle est épatante.
Et de théâtre également.
France Inter, une heure en série.
Et on a du temps pour le plateau télé, mais vous avez été formidable ce soir. Je ne vous reconnais pas. Allez Isabelle, on commence avec vous. Olive, Kitteridge sur OCS. Oui, alors quand j'ai dit que vous aviez du temps, on va pas tartiner trois jours non plus. Hein. Voilà.
Mais laissez-moi parler.
Je préviens.
Alors c'est l'histoire dans une petite ville de la côte est des États-Unis et sur plus d'un quart de siècle d'Olive Kitteridge, prof de maths dans un lycée, épouse d'un pharmacien, mère d'un ado. On pourrait dire d'elle qu'elle est sévère mais juste dans le cadre professionnel, sévère et injuste dans le cadre familial. Car Olive Kitteridge est aussi intelligente que méchante. Mais l'on suit avec passion ce personnage étonnant. D'un humour cruel, mais par ailleurs si drôle et attachant. C'est vrai, c'est vous. Oui. Vous appelez Olive dans la vraie vie ?
Dans certaines soirées, oui.
Alors c'est donc une femme dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas, d'un seul tenant et qui est regardée dans cette série avec une frontalité bienvenue et interprétée de même par la génialissime Frances McDormand. Ah. Que j'aime d'amour, l'actrice de Fargo, le film, l'actrice de Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, l'actrice de tellement de films importants.
L'actrice. L'actrice. Voilà, je vais faire comme Frédéric Durand, l'actrice.
C'est un ton particulier, très original, alors que ça raconte juste la vie, les difficultés, les frustrations, les regrets et le temps qui passe. C'est entre poésie pure et trivialité sans phare, à la fois désespéré et complètement réjouissant. Donc c'est une mini-série, ça date de 2014, il y a 4 épisodes seulement, donc ça se dévore. C'est écrit par une femme, Jen Anderson, d'après le roman d'une femme, Elisabeth Strout, et c'est réalisé par une femme, Lisa Shlodenko.
Ah, Lisa Shlodenko, ah, oui, mais oui, oui, absolument.
Et ça parle de tout, ça parle de nous. Et aux côtés de Frances McDormand, il y a 3 beaux personnages d'hommes et 3 acteurs épatants, Richard Jenkins, Peter Mulan et Bill Murray.
Alors j'ai fait Lisa Shlodenko, oui, bien sûr, formidable. On va rappeler que c'est quand même une prêtresse du cinéma indépendant américain et grande prêtresse aussi du cinéma lesbien.
Oui. Et voilà, donc vous n'arrêtez pas de me couper la parole, donc je ne sais plus où j'en suis, mais c'est très très bien. Et la musique de Carter Burwell est magnifique aussi, et j'ai dû oublier plein de trucs, mais je vous recommande cette série.
Vous n'avez pas tout oublié de nous la recommander et nous donner très envie, merci. Chère Isabelle, promis, la prochaine fois je ne dirai rien. Ava, vous avez un petit problème dans votre vie, c'est Craignos en ce moment.
C'est Craignos. C'est Craignos. Hein, ouais. Bah, c'est une série qui est créée par Jean-Pascal Zadi, co-auteur et co-réalisateur de la comédie Tout simplement noir, que vous avez peut-être vu cet été.
Carton
quand
l'été.
Quand les salles de cinéma étaient ouvertes, hashtag nostalgie. Et si vous avez aimé Tout simplement noir, et bah, vous allez fondre pour Craignos et ses 6 épisodes de 13 minutes qui nous embarquent dans les galères d'Ernesto, joué par Jean-Pascal Zadi. Alors Ernesto, il a la trentaine. Il est chômeur, il vit avec sa copine à ses crochets en région parisienne. Et un jour, eh ben, il va perdre un sac que Joe, un de ses amis, lui avait confié et dans lequel se trouvait 100 000 euros. La loose, parce que Joe qui est en prison comptait sur cet argent à sa sortie. Ernesto va alors tenter de récolter le butin avant la libération de Joe. Pour cela, il a 6 mois et vu le spécimen qu'est Ernesto, 6 mois, c'est demain. Hein. Ce ne sont pas ses idées foireuses qui vont le sortir de la panade. Je me sentais comme Domenech. En 2010, j'étais impuissant, dit-il. Voilà, c'est très drôle. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à regarder cette série faite avec 3 fois rien, parce qu'on y retrouve ce qui fait la singularité de l'humour de Zadi. Entre Dumb et Dumber et Les Pieds Nickelés, c'est potache, le comique de situation est maîtrisé, ça dit des choses très sérieuses aussi, hein, sur la société, sur la justice, sur l'amitié, sur la solidarité. Le regard de Zadi est affûté, et d'ailleurs, il profite de la rupture du quatrième mur pour nous interpeller. Et puis, on retrouve des acteurs formidables comme Esteban, hein, dont je vous avais parlé dans la série Tétard, que j'aimais beaucoup aussi. Donc si vous avez envie de rire, Craignos, c'est en ligne sur le site de France TV et c'est franchement très sympathique.
Et je suis entièrement d'accord, j'abonde dans votre sens. J'ai encore quelques secondes pour vous recommander un DVD sorti dans la collection Les Joyaux de la télévision, coédité par Lina et par Elephant, qui s'intitule Nick Verlaine ou Comment voler la Tour Eiffel. Et oui, il n'y a pas que Arsène Lupin dans la vie des grands voleurs. Une série sortie en 1976, écrite et réalisée par Claude Boissol, qui était le réalisateur, par exemple, de Poli ou encore des Globetrotters. Et il raconte donc les aventures d'un voleur, Nick Verlaine, sorte d'Arsène Lupin moderne, qui réalise les larcins les plus loufoques et les plus audacieux, comme voler une route. C'est pas facile, tous les jours. Et donc voler peut-être la Tour Eiffel. Philippe Nico, Anna Prucnal, qui est assez génial, dans un rôle hyper caricatural, mais dont elle se sort avec immensément de talent. Et Maurice Birot font partie donc de la distribution de ce Nick Verlaine. C'est vintage, c'est doudou, c'est idéal pour les petites soirées d'hiver. Et petite question, savez-vous qui avait composé le générique de Nick Verlaine et comment voler la Tour Eiffel? C'est une question piège, il vous reste 3 secondes avant que je vous donne la réponse. Trop tard, Mort Schumann.
Oh, oui.
Vas-y donc.
Voilà. Et bien, fin du plateau télé. Une heure en série, c'est fini. C'est bien aussi quand ça s'arrête. Mille merci à vous, à Vaken, Isabelle Danel et Benoît Lagan d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Vraiment, merci, merci, merci. Nous vous avons recommandé ou pas, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, parce qu'on a quand même fait beaucoup de recommandations Lupin, donc, sur Netflix, On the Spectrum, et The Stand sur Starzplay. Bon, ben voilà, on n'était pas tout à fait d'accord à chaque fois. La semaine prochaine, nous évoquerons, je ne sais plus ce que nous allons évoquer, voilà, je l'ai oublié, mais ça me reviendra tout à l'heure. Demain, 20h, rendez-vous avec Jérôme Garcin dans Le Masque et la Plume consacrée à l'actualité littéraire. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h du matin. Il y a un site internet, vous trouverez donc les promesses de la semaine prochaine que ma petite mémoire défaillante a été incapable de relocaliser. Vous pouvez nous envoyer un courrier. Une heure en série, une émission réalisée comme toujours et comme personne par Marie-Annick Rimbaud. La programmation musicale était assurée par Muriel Pérez. Préparée comme toujours aussi avec Amel Caldi et à la technique ce soir, Arnaud Caillé.